protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.
Bonjour à tous. Être responsable des relations œcuméniques à la Fédération protestante de France doit comporter un certain nombre de challenges en ce qui concerne les relations entre les groupes protestants. Désaccords théologiques, ecclésiaux, il doit y en avoir. Mais les relations œcuméniques concernent aussi les églises orthodoxes et catholiques. Et là s'ajoute la conception du rôle de l'église et aussi, ne le cachons pas, la place des femmes. Pour nous en parler, je reçois Pierre Blanza, responsable des relations œcuméniques à la Fédération protestante de France. Bonjour Pierre.
Bonjour Yolande.
Et merci d'avoir accepté notre invitation.
Eh bien, c'est avec plaisir.
Alors, notre émission « Un protestant peut en cacher un autre » se focalise surtout sur la trajectoire personnelle des invités, au moins au début. Donc, on va parler de vous. Alors, votre filiation, est-ce que vous êtes né dans une famille protestante depuis avant la Réforme ou est-ce que vous êtes nouvellement entré dans la grande famille ?
Alors, depuis avant la Réforme, je ne crois pas, même si j'ai jamais fait vraiment de recherche de ce côté-là. Mais en revanche, je suis né dans une famille pastorale. Mon père était pasteur de l'église réformée, donc je suis un peu tombé dans la marmite, comme on dit. Et d'autant plus que j'ai grandi dans un petit village de Haute-Loire, du plateau du Vivarais, qui s'appelle le Mazet-Saint-Voix, à côté du Chambon-sur-Lignon. Et c'était un village qui était repéré par le Quid comme, paraît-il, le village le plus protestant de France. Parce qu'il y avait peut-être 6 ou 7 communautés protestantes et pas d'église catholique. Donc, ce qui fait que j'ai grandi dans un milieu dans lequel j'ai eu beaucoup de protestants et peu de catholiques au début.
C'est curieux. Pas d'église catholique, c'est rare en France.
C'est rarissime. Il y a effectivement une chapelle qui s'appelle la chapelle de Saint-Voix, mais qui a été restaurée par une association œcuménique et qui a pour caractéristique d'être un lieu dans lequel on ne célèbre pas de sacrement jusqu'à ce que l'unité soit faite. Donc, pour le moment, elle est notamment animée par une petite fraternité de la communauté des diaconesses de Reuilly, donc une communauté protestante, mais il ne s'y célèbre ni baptême, ni Sainte-Cène.
Et donc, ce village, c'est dans le Vivarais. Oui, le Vivarais, c'est très protestant.
Alors, la Haute-Loire est un lieu assez catholique, hein. Le Puy-en-Velay est une capitale du catholicisme régional, mais il y a effectivement la région du plateau qui est un terroir très protestant, de vieille extraction, comme on dit. Voilà.
Et vous-même, alors, donc, vous avez suivi le catéchisme, je suppose, école biblique, toute la formation d'un enfant protestant, fils de pasteur en plus.
Oui, j'ai suivi ce parcours-là avec la particularité que dans ce petit microcosme, il y avait beaucoup de relations aussi avec d'autres églises protestantes plutôt de couleur évangélique, je dirais. Alors du coup, ça m'a permis assez tôt de faire des choses avec des amis, des enfants avec lesquels j'étais à l'école. On se voyait certes à l'école, mais aussi à côté, parfois on s'invitait entre communautés.
Et c'est curieux parce que les gens que je reçois au micro, il y en a certains qui sont d'origine catholique et qui me disent « je n'avais jamais rencontré un protestant avant, je ne savais même pas que ça existait ». Et fou, c'est le contraire.
Et c'est un peu ça, oui. J'ai le souvenir d'un jour, quelqu'un qui avait frappé à la porte du presbytère, j'étais enfant, et qui me disait « vous êtes le premier protestant que je vois ». Et moi, j'avais l'impression que c'était le premier catholique que je voyais.
Et vous saviez que c'était bizarre, enfin que c'était un peu hors norme. À quel moment vous avez su que vous étiez dans une France catholique ?
Oh, quand même assez vite, parce qu'à l'école, quand même, on apprend assez rapidement ces choses-là.
Ouais.
Et puis, il y a un récit protestant aussi d'une minorité. Alors, j'avais un peu l'impression d'être dans le village d'Astérix, vous savez, le village des irréductibles gaulois. Et bien, c'était un peu ça. J'avais l'impression d'être dans un village d'irréductibles protestants.
Bah, quelque part, c'est un peu ça. Hein. Ouais. Et votre vocation, donc, qu'est-ce qui vous a inspiré? Pourquoi devenir pasteur?
Alors, le fait d'être né dans une famille pastorale, pour moi, ça me destinait plutôt à ne pas être pasteur, voilà. Mais assez vite, quand même, j'ai été investi dans des mouvements de jeunesse, dans des groupes interchrétiens, que ce soit à travers les clubs bibliques lycéens, les groupes bibliques universitaires, aussi une partie de découverte du renouveau charismatique à cette période-là. Et du coup, assez vite, je me suis senti appelé à être une oreille. C'était la vision que j'avais un peu de ma vocation. Je me disais, tiens, je crois que j'arrive à écouter les gens et je me rends compte que les gens sont contents d'être écoutés. Donc j'ai commencé à cheminer avec cette idée-là, comment être une oreille. Et puis dans les mouvements de jeunes que je fréquentais, assez rapidement j'étais appelé à devenir animateur, etc. J'aimais beaucoup le travail avec la jeunesse. Alors du coup, au moment où on était conviés à faire un service militaire, je suis encore de cette génération-là, oui. C'était une belle occasion pour moi pour d'abord me saisir de la question, est-ce que je suis prêt à porter les armes ? Alors je me suis dit, non, je ne suis pas prêt à porter les armes. C'était pour moi aussi un moment un peu déterminant de se dire, oui, eh bien, on peut avoir un mode de vie un peu prophétique, un peu en dehors des clous, entre guillemets, de faire des choix d'un pacifisme un peu radical. Et du coup, il fallait que je trouve un lieu pour mon objection de conscience.
Et oui.
Et je l'ai accompli dans une association chrétienne de tradition protestante et aussi interconfessionnelle, la Ligue pour la lecture de la Bible.
Ouais.
Et pour moi, c'était aussi une occasion pour tester ce que je sentais déjà un peu comme une vocation à l'intérieur de moi, mais que je voyais à l'époque plutôt comme une vocation plutôt missionnaire auprès des jeunes ou d'animateurs jeunesse.
Donc, vous avez fait tout de suite des études de théologie ?
Non, non, non.
Non.
Non, non, ça s'est venu un peu après.
Ouais.
Non, non, à ce moment-là, je faisais des études d'architecture. Mmh. Et j'ai fait toute ma formation en architecture à Grenoble.
J'aime bien votre expression être une oreille. C'est assez curieux parce que, en général, les gens vont dire qu'ils veulent être la voix de quelque chose. L'oreille, c'est assez original. Et alors, donc, vous faites des études de théologie à Montpellier, Paris
Alors, j'ai commencé Montpellier et puis à l'Université Laval, à Québec.
Ah, d'accord.
Après la fin du premier cycle, et à l'époque, on faisait le stage pastoral en ouverture du deuxième cycle. J'avais un peu soif de voir d'autres horizons. Mmh. Et à l'époque, il y avait des liens très privilégiés entre l'Université Laval de Québec et la faculté de Montpellier, à travers surtout le travail qui se faisait autour de Paul Tillich.
Oui.
Et du coup, j'ai pu embarquer dans ce partenariat-là. Et j'ai vécu une année à Québec très, très pleine de découvertes et aussi de découvertes œcuméniques, puisque la faculté de l'Université Laval est une faculté catholique.
Ah, d'accord. Et alors, après, vous êtes pasteur. Tout de suite, vous avez eu envie d'être pasteur. Vous n'avez pas cherché autre chose dans un mouvement ou dans un...
Alors, quand je suis entré en faculté de théologie, c'était plutôt avec cette vision-là de rentrer dans un mouvement.
Voilà.
Mais en fait, la première année d'études a été assez significative pour moi. J'étais jeune marié, donc il fallait aussi manger.
Et oui.
Et du coup,
même quand on n'est pas jeune marié, d'ailleurs, faut toujours manger.
Oui, oui, mais a fortiori, voilà. Et du coup, il y avait la possibilité de faire des remplacements pastoraux l'été. Et dès la première année, je me suis proposé à faire un remplacement pastoral. J'étais un petit peu inquiet, d'abord parce que Si j'avais la vocation d'être oreille, la vocation de parler, c'était vraiment quelque chose qui m'effrayait. Je me sentais pas du tout prêt à prise de parole publique. C'était quelque chose d'effrayant. Alors je me suis dit quand même, cet été, je vais devoir faire office de pasteur pendant un mois dans une paroisse. Il faudrait quand même que tu aies prêché au moins une fois dans ta vie avant de te risquer à faire ça. Alors je me suis inscrit sur le tableau à la faculté pour une première prédication. Et ça a été pour moi une révélation, cette première prédication. C'était pour moi la découverte que ce texte biblique qui nourrit ma foi intime, personnelle, quand je le partageais avec d'autres, il y avait un surcroît à la fois de joie, et puis c'est curieux, quand on le partage avec d'autres, on l'approfondit aussi personnellement d'une manière plus forte. Et ça a été une belle découverte. Et à l'issue de cette première suffragance d'été, comme on dit, sur le premier emplacement pastoral, j'ai découvert aussi la variété du ministère en paroisse, les visites, les temps de partage biblique. Et finalement, j'ai été surpris de découvrir ce ministère que je croyais un peu connaître pour avoir été un passager embarqué toute ma jeunesse dans la famille pastorale où j'ai grandi. Mais là, j'ai redécouvert avec un nouveau frais ce ministère très, très beau, très dans la relation. Et je crois que oui, c'est dès la fin de la première année de théologie, je me suis dit, je vais être pasteur de paroisse.
Voilà. Et comment ça s'est passé par rapport à l'expérience que vous aviez justement de votre père? Vous venez d'en parler. Est-ce que vous avez trouvé que c'était différent ce que vous faisiez, ou est-ce que ça s'inscrivait dans une lignée
Je pense que les premières années, je pensais que j'étais sans doute un pasteur très différent de mon père, etc. Mais au fur et à mesure des années passant aussi, on mesure les joies et les difficultés de ce ministère, et puis on est peut-être un peu plus réaliste sur la ce que ça représente comme consécration, comme temps de comme engagement, et du coup je pense que le regard que j'ai eu sur la manière dont mon père habitait son ministère et le mien a évolué aussi au fil des années, et puis je me suis retrouvé avec une complicité aussi avec mon père plus tardive, mais voilà, c'est ce que je peux en dire.
Et alors, vous êtes à la Fédération protestante de France. Pourquoi avoir choisi ce rôle? Enfin, déjà, pourquoi être à la Fédération protestante de France?
Alors, donc j'ai été pasteur en paroisse à peu près 25 ans. J'ai toujours été impliqué dans des relations inter-églises, à l'intérieur du protestantisme et au-delà du protestantisme. Et je crois que... au fur et à mesure où j'ai évolué dans le ministère pastoral, cette part de relations inter-églises est devenue pour moi de plus en plus capitale. Ça me semble tout à fait hors de propos de penser qu'on peut être une église seule à témoigner d'évangile dans un lieu, que ce soit un village ou une grande ville. Et du coup... j'avais des liens depuis longtemps avec la Fédération protestante de France, depuis le temps de mon objection de conscience déjà, où on participait au département jeunesse à l'époque de la Fédération protestante. Et puis je suis entré dans la commission d'accompagnement du service des relations avec les églises chrétiennes il y a 7 ou 8 ans comme un acteur de terrain engagé, délégué par mon église. Dans ce lieu d'accompagnement du travail œcuménique fédératif. Donc, quand on m'a demandé, on m'a dit, tiens, là maintenant, il y a une demande pour ce poste-là, on pense que tu serais sans doute bien adapté à ce... J'ai trouvé ça un peu naturel parce que c'était devenu une grande part déjà de mon activité et aussi de ma foi personnelle que de tisser des liens avec d'autres églises.
Alors j'ai vu dans votre parcours sur internet que les relations avec les autres églises, notamment évangéliques, vous dites c'est un grand enjeu pour le protestantisme. qu'il y a un tropisme certain au morcellement institutionnel. J'ai trouvé ça très bien dit. On peut dire aussi trois protestants, quatre opinions, ou on peut dire tout ce qu'on veut.
Exactement.
J'ai beaucoup aimé le morcellement institutionnel. Et donc, vous dites aussi que c'est un enjeu au sein de chaque église, car toutes sont traversées par des débats clivants. Alors, comment on peut s'insérer justement là-dedans pour essayer de, je dirais pas adoucir les débats clivants, mais faire qu'ils deviennent ou qu'ils soient fraternels?
Eh ben, c'est tout un travail, tout un effort et aussi toute une joie, parce que tant qu'il y a des choses qui sont clivantes, c'est qu'il y a des choses qui sont importantes pour les gens. Donc ça veut dire que les gens s'y investissent. Donc s'il y avait plus de débat, s'il y avait plus rien de clivant, peut-être qu'on devrait s'inquiéter sur est-ce que finalement les gens ne se préoccupent, ne s'engagent plus dans rien. Ça serait un peu dans un genre de ventre mou là. Donc le fait que ça débatte, que ça soit qu'il y ait des questions qui clivent les communautés. C'est un peu indépassable. La question, c'est comment on vit ça? Est-ce qu'on le vit en se disant, eh bien, si l'autre refuse d'admettre ma position, alors je crée mon truc à moi et je sors de cette communauté d'église pour en créer une autre, ou bien j'expulse de ma communauté ceux qui ne pensent pas comme moi, ou bien on se dit, alors peut-être que on a à travailler encore la question ensemble, on a peut-être à s'enrichir mutuellement, peut-être que notre réflexion n'est pas encore aboutie, et je pense que sur beaucoup de questions, notre réflexion n'est pas aboutie, et ma foi, c'est pas très grave. Hein. La vie est faite de choses inabouties en cours de germination, et donc voilà. Donc comment on fait? Ben on prend le temps de l'écoute d'abord, et puis peut-être d'un a priori confiant. La foi, c'est la confiance. Si on arrive face à l'autre en se disant, ben je fais aussi confiance à ce que tu dis, ce que tu penses, je te crois sincère dans ce que tu exposes de ta pensée, alors du coup on peut parler.
Et c'est pour les problèmes théologiques, mais pour les problèmes sociétaux, c'est pareil. Par exemple, les désaccords sur l'avortement, sur la fin de vie, sur comment ça se passe pour puisque à la fédération on demande d'avoir une opinion, puisque c'est le porte-parole du protestantisme, notamment auprès des pouvoirs publics. C'est difficile de représenter des églises ou des mouvements qui ont des opinions complètement différentes.
Oui, mais parfois il faut le dire, il faut oser dire. Dans notre fédération, il y a des avis divergents sur ces questions-là. Alors, tout ce qu'on peut dire ensemble, il faut le dire. Et finalement, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut dire en commun. C'est d'ailleurs un exercice de trouver ce que l'on peut dire ensemble. Mais je crois que c'est aussi utile de faire entendre des différences. Ça donne aussi un reflet à la société de dire on peut être en débat à l'intérieur même d'une communauté qui se présenterait comme homogène. Il y a des choses qui sont tellement précieuses, tellement délicates, tellement exigeantes que on peut pas simplement répondre par oui ou par non, pour ou contre. Et moi, il me semble que actuellement les églises ont un grand rôle là-dedans, parce que il y a un genre de réduction du débat dans la société où on exige une position très tranchée, et souvent les questions les plus délicates, et notamment les questions éthiques, c'est de la dentelle entre guillemets. Donc moi je suis pour la dentelle un peu.
On va parler des relations maintenant avec les églises saintes, entre guillemets. Par exemple, je tire le nom de la charte œcuménique récente, donc qui dit « Nous croyons en une seule sainte église et apostolique catholique. Sainte église et apostolique catholique. » Non, parce que je l'ai en anglais sous les yeux, alors j'essaie de le mettre dans l'ordre. C'est pour ça que je bégaye. Alors, comment concilier avec votre position de représentant de la fédération protestante où l'église n'est pas sainte? Et
comment ça, elle n'est pas sainte? Bien sûr qu'elle est sainte. Bien sûr qu'elle est catholique. Bien sûr qu'elle est apostolique. C'est une formulation qui est une formulation très ancienne, qui remonte dans les premiers conciles de l'Église. Cette année, justement, on a commémoré les 1700 ans du premier concile œcuménique de Nicée, d'où vient notamment cette formulation.
Ouais.
Et d'ailleurs, les réformateurs ont fait leur très, très volontiers cette manière de formuler. Et oui, jusqu'à la fin du XVIe siècle, les protestants revendiquaient être aussi Église catholique.
Oui, parce que là, on est sur les termes, mais je rappelle qu'il y a quand même le principal point d'achoppement entre protestants et catholiques. C'est pas les histoires de virginité ou pas de virginité, encore que ça peut avoir de l'importance parce que ça pose le problème des relations sexuelles ou de la position sexuelle qu'on prête aux femmes. Mais le principal point d'achoppement, c'est quand même l'Église comme intermédiaire pour les catholiques vis-à-vis de la relation du chrétien vers Dieu. J'ai pas besoin de vous l'expliquer, mais je le rappelle aux auditeurs, alors que pour les protestants, l'Église, ça va être le rassemblement pour aider finalement les croyants à vivre leur foi, et c'est en aucun cas un intermédiaire. Alors là, c'est un très gros point d'achoppement, non ?
Alors, dans son caractère d'intermédiaire, oui, mais elle a quand même une vocation... Quand on est protestant, on est assez paulinien généralement. C'est souvent notre auteur biblique de référence. Et justement, Paul utilise beaucoup la métaphore du corps pour parler de l'Église, comme aussi lieu d'accueil de l'Esprit-Saint. Donc, la réalité de l'Église pour les protestants, ce n'est pas simplement une réalité factuelle d'un lieu de rassemblement, mais c'est aussi une forme de mystère de cet Esprit qui a animé le Christ, qui anime aussi chacun d'entre nous. Paul dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit, et vous l'êtes à la fois personnellement, individuellement, dans votre existence singulière, mais aussi vous l'êtes collectivement, porté par le même souffle qui animait le Christ et les premiers apôtres. Donc, je trouve que c'est toujours intéressant de creuser nos positionnements, parce que c'est vrai que les protestants, on a une tendance à diminuer un peu l'importance de l'Église en tant qu'institution, et on a bien raison de le faire, évidemment, parce que c'est une réalité très humaine et du coup qui est appelée sans cesse à se transformer, à se réformer. On aime bien dire l'Église réformée toujours
doit se réformer, bien sûr.
Mais en même temps, il faut pas oublier que notre expérience aussi fait que c'est souvent à travers l'Église quand même qu'on a conservé notamment les textes bibliques qui nous parlent encore du Dieu de Jésus-Christ. C'est aussi à travers des personnes que souvent la foi germe dans une vie. C'est souvent à travers des intermédiaires, finalement, des rencontres. Alors, voilà, je trouve qu'il est important pour les protestants de ne pas oublier que, certes, ils sont en ligne directe avec Dieu, tous, très bien, mais aussi, c'est appréciable d'avoir des frères, des sœurs, des personnes à rencontrer, et aussi des communautés. Et en ce sens-là, voilà. Donc, c'est sûr que quand la charte œcuménique européenne reprend cette formulation qu'elle puise dans le symbole de Nicée, d'abord, elle s'ancre donc dans cette histoire. Elle dit, c'est cette même racine de l'Église qui nous fait vivre. Et elle dit aussi, entre guillemets, que finalement, cette formulation, aucune de nos Églises ne peut la capturer. Souvent, le terme catholique a été peut-être un peu capturé par l'Église catholique romaine, et puis par réaction, les protestants, on a dit oh, ben, on vous laisse ce terme,
si
vous le voulez, de la même manière que le terme évangélique, j'espère, peut être revendiqué par toutes les Églises qui puisent dans l'Évangile la source de leur foi, eh bien, je crois qu'il ne faut pas hésiter à réutiliser et à s'approprier ce mot. Oui, nous sommes aussi une part du visage de l'Église catholique.
Alors, vous venez de parler de la communauté des frères et sœurs. Dernier acte, donc, décembre de cette année, les femmes sont exclues du diaconat dans l'Église catholique. Comment vous pouvez être en relation ou comprendre, par exemple, des groupes comme le comité de la JUP, qui est un groupe de femmes catholiques qui plaide pour avoir un plus grand rôle dans l'Église. Mmh. Est-ce que vous considérez ça comme une affaire purement catholique, donc qui ne regarde pas les protestants, ou est-ce que y a moyen d'aider ces femmes est-ce que vous avez une opinion là-dessus ou pas du tout?
Alors, c'est des groupes qui sont dans une militance utile, je crois, dans l'Église, évidemment. Peut-être une des différences entre notre protestantisme hexagonal et puis l'Église catholique, c'est justement l'échelle d'universalité qu'essaye d'incarner l'Église catholique au niveau mondial. Alors évidemment, ça représente des réalités très diverses suivant les cultures. Et même à l'intérieur de notre protestantisme, si on voyage un petit peu et qu'on va, je sais pas, voir ce que c'est que nos églises en Birmanie, en Thaïlande en Namibie, notre manière et notre positionnement culturel pèse là-dessus. Alors, moi, je crois que les églises avancent au rythme qu'elles peuvent. Parfois, on a l'impression qu'il y a des grands reculs. Parfois, il y a des choses qui se cristallisent. Parfois aussi, des choses se dénouent d'une manière assez inédite. Et je donnerai un exemple. Vous savez, la fameuse déclaration sur la doctrine de la justification par la foi, qui est un texte qui a été travaillé pendant peut-être 30 ou 40 ans avant d'aboutir à une signature à la fin du siècle dernier, donc en 1999. Ce texte-là, il était totalement impensable pendant des siècles de dire que finalement ce qui avait été au cœur du message de la réforme, aujourd'hui n'était plus une matière à excommunication mutuelle, parce que on réalisait que on utilisait des mots avec un sens un peu différent les uns et les autres. Et ce texte-là, cette déclaration, je me rappelle très bien quand elle a été signée, c'était l'année où je commençais mon ministère. Et c'est une déclaration signée entre la Fédération luthérienne mondiale et l'Église catholique.
Oui.
Alors moi, j'étais dans une église réformée à l'époque. Oui. Et je regardais ça un peu de haut, comme l'ensemble de l'Église réformée qui disait « Oui, c'est un texte qui nous engage pas. Nous, d'abord, on est réformés, on n'est pas
voilà,
luthériens.
Oui, oui.
Et puis, on trouvait un peu que les termes choisis étaient peut-être un peu ambigus, etc. Et donc, on a regardé ça un peu de haut. Et puis, les années ont passé. On s'est apprêté à célébrer les 500 ans de la réforme, une vingtaine d'années plus tard. Et puis, du coup, là-dessus, le pape s'est invité lui-même à Lund pour la célébration d'ouverture de cette année d'anniversaire. Et du coup, on s'est dit, ah, mais c'est quand même significatif, là, que le pape juge utile de célébrer la réforme. C'était inédit jusqu'à présent. Et puis, du coup, tout le monde s'est repenché sur ces textes qui permettaient cela. Et du coup, ont embarqué l'Alliance réformée mondiale, les Anglicans et d'autres unions d'église. Donc parfois les choses sont très lentes à germer et puis il faut qu'un événement vienne comme un précipité chimique là faire que la réaction a lieu. Alors moi je suis assez confiant quand même. Les choses sont dans l'Église catholique vis-à-vis des ministères féminins, on a l'impression que les choses sont un peu paralysées ou un peu bloquées. Peut-être que dans quelques années, il va y avoir quelque chose qui va débloquer. Donc il faut pas se décourager et en tout cas continuer à travailler pour une meilleure représentativité de l'ensemble des êtres humains dans la famille de l'Église.
Eh bien, on va rester dans cette espérance. J'avais encore pas mal de questions à vous poser, mais bon, le temps est arrivé, on est au bout.
Je suis bavard finalement, oreille parle, mince.
Oui, ça, c'est sûr qu'il y a la parole aussi, il n'y a pas que l'oreille. Alors merci Pierre de cet échange sur le combat pour l'unité. On n'a pas parlé de l'unité et l'uniformité, mais on fera peut-être dans une autre émission thématique, on ne sait jamais.
Volontiers.
Et merci à nos auditeurs pour leur fidélité et à bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.